Nous sommes avec Jean-Luc qui fait partie du comité de soutien avec la grève de la faim qui a lieu en ce moment dans une prison de Californie à Pelican Bay. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Blandine.
Alors, samedi passé, on était conviés à une marche à travers Montréal lors de laquelle on a eu l'occasion de s'arrêter devant plusieurs édifices qui représentaient des banques, des entreprises, des compagnies et tu nous expliquais devant chacune de ces lieux-là un petit peu leur lien avec le complexe industriel des prisons, donc en fait ces compagnies qui se font de l'argent sur les prisons. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-uns de ces cas et le sujet en tant que tel qui est assez méconnu?
Bien sûr. Alors, le 16 juillet, donc comme tu disais, nous avons marché pour aller visiter différents entrepreneurs carcéraux dans le centre-ville de Montréal. Quelque chose qui est intéressant à remarquer à Montréal, c'est que la majorité des entrepreneurs carcéraux qui se retrouvent dans le centre-ville sont plus des banques ou des firmes ou des compagnies d'architectes ou des choses comme ça. Les entrepreneurs de construction en tant que tels se retrouvent dans des lieux à quelques heures hors de Montréal. Donc, les entrepreneurs et les compagnies de laquelle je vais parler en ce moment, c'est majoritairement plus des banques et des personnes qui prêtent de l'argent à ces compagnies qui font la construction en tant que telle. Donc, une des premières places où est-ce qu'on s'est arrêté, c'est le 1250 René Lévesque, où nous avons, où dans cet édifice-là, il y a Macquarie Private Wealth Inc., Merrill Lynch et Bank of America. Alors, ces trois compagnies-là donnent l'argent et joue aussi le rôle de conseiller financier d'un groupe qui s'appelle Geo Group, qui lui gère des prisons et des centres de détention aux États-Unis, plus particulièrement aussi une prison ou un centre de détention qui s'appelle le Northwest Detention Center dans l'État de Washington. Merrill Lynch aussi est impliqué à fournir de l'argent à des compagnies comme ça qui gèrent des prisons aussi au Canada. Alors, juste un peu plus loin, il y avait aussi au 1 Place Ville-Marie. C'est une compagnie qui s'appelle Deloitte et Touche, qui fait des prêts et qui assure aussi la stabilité financière du service correctionnel du Canada. Alors, plus tôt cette année, ils sont allés avec d'autres compagnies comme ça et accompagnés du service correctionnel Canada à ADX, qui est une prison sécurité supermax, à Florence, au Colorado. Et ce qu'ils faisaient là, c'est qu'ils sont allés visiter avec d'autres compagnies et le service correctionnel canadien des prisons Supermax pour essayer de trouver la meilleure façon d'emprisonner les personnes au Canada en calquant directement leur politique sur les politiques des États-Unis. Quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que aussi aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus haut taux d'incarcération au monde. Donc, il y a plus de 2 millions de personnes en prison, 100 000 d'eux en isolement cellulaire à long ou court terme. Et que beaucoup, beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs font beaucoup, beaucoup d'argent de la construction des prisons, du maintien des prisons, et aussi pour gérer des prisons. Et quelques-unes de ces choses-là, c'est des architectes, des ingénieurs, des firmes de construction, des compagnies qui fournissent la nourriture, qui font aussi ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amélioration des systèmes de contrôle, donc des systèmes de sécurité beaucoup plus technologiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de firmes, de compagnies qui font beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'ils sont spécialisés avec les portes automatiques ou les nouveaux panneaux de contrôle. Donc, ça, c'est quelque chose qui se passe tout le temps, tout le temps. Et au Canada aussi, nous avons quelque chose qui s'appelle des unités de logement sécuritaire où la majorité des prisonniers en isolement à long terme sont dans les États-Unis. Nous, la seule, à ma connaissance, la seule au Canada qui est une prison spécifiquement pour ça, c'est à Sainte-Anne-des-Plaines, mais il y a environ une centaine de prisonniers comparé à 100 000 aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être d'une envergure moins grande au Canada, mais qui est aussi quelque chose que le Canada essaie de changer assez rapidement pour essayer de lui aussi être capable d'avoir le plus de personnes possible en isolement cellulaire. Alors, relié à toutes ces expansions de prisons-là, c'est aussi le service correctionnel canadien va avoir 3 milliards de plus de dollars dans son budget. Donc ça, c'est évidemment, ça va plus que doubler ce que le service correctionnel canadien recevait. Et ça va aussi faire que CSC, qui est le Service canadien, va devenir un des plus gros, le plus gros entrepreneur en construction au Canada dans les prochaines années. Alors, nous sommes aussi arrêtés au 270 Prince. C'est une firme qui s'appelle Rubin and Ruthman Architect, qui, eux, ont fait le design de beaucoup de prisons et de postes de police au Québec. Et quelque chose qui est tout le temps gardé en tête lorsqu'ils font des designs, c'est de faire sûr que tu puisses utiliser les produits qui viennent de Corcan. Alors, Corcan, c'est aussi une entreprise de réhabilitation de prisonniers qui est fait. Donc, toutes les personnes qui travaillent là, c'est des prisonniers et ils sont payés quelque chose comme 1,50$ de l'heure pour faire des tables, des chaises, des bureaux, plein de choses qui se retrouvent dans beaucoup, beaucoup de compagnies. Aussi, les séparateurs dans les cubicules de grosses entreprises, c'est aussi beaucoup de choses. C'est Corcan qui fait ça. Et quand il y a la construction de nouvelles prisons ou de postes de police ou des choses comme ça, ils gardent en tête de savoir les dimensions de qu'est-ce que Corcan fait pour faire sûr que ça puisse rentrer, pour pouvoir faire aussi donner de l'argent encore au service carcéraux. Nous sommes aussi arrêtés au 930 Wellington. 930 Wellington, c'est Sodexo, qui est un fournisseur de nourriture pour plein de prisons au Canada et partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Mais ce qui est aussi important de remarquer, c'est que Sodexo fournit aussi beaucoup de nourriture pour les universités et les écoles secondaires. Donc, ces compagnies-là sont pas juste, c'est pas juste des compagnies impliquées dans le système carcéral, c'est aussi des compagnies impliquées dans plein d'autres choses, plein d'autres parties de notre vie. Ce qui fait que lorsqu'on commence à regarder quelles sont les compagnies qui sont impliquées dans le système prisonnier industriel, c'est vraiment facile de remarquer qu'ils sont partout dans nos vies, puis commencer à lutter, puis à résister, c'est des gestes qui peuvent être faits partout, partout, partout. C'est pas nécessairement... on n'a pas besoin même d'aller marcher dans le centre-ville, juste aller à une cafétéria, où ça peut être des choses qu'on remarque que ces compagnies-là, c'est les mêmes. Notre dernier arrêt s'est passé dans un poste de police, devant un poste de police du SPVM. Alors, les liens entre les prisons et les flics, c'est assez connu comme lien. C'est des personnes qui arrêtent les personnes. Il y a beaucoup, beaucoup aussi d'amis qui sont et gardes de prison et policiers. Un emploi qui a beaucoup de similarités. Mais ce qui se passe aussi, c'est que avec les nouvelles législations, il y a beaucoup, beaucoup plus de collaboration entre les postes de police de quartier et le service correctionnel canadien et aussi les prisons provinciales où les prisons vont pouvoir donner des contrats aux postes de police de quartier d'aller regarder des prisonniers, d'aller faire la surveillance des personnes qui sont sous libération conditionnelle ou après avoir servi un certain temps, donc sont remis en liberté dans la communauté. Ce qui fait que ça change le rôle d'une personne qui est maintenant hors d'une prison. Elle ne sait plus nécessairement vivre dans la communauté, mais c'est servir son temps dans la communauté. Donc ça, c'était quelques-unes des places que nous avons visitées samedi le 16.
Merci. Et d'habitude, quand on parle de prison ou des compagnies ou des gens qui emprisonnent, on en parle en des termes de sécurité. Donc, il y a des criminels, puis là, pour des raisons de sécurité, on va les enfermer, etc. En quoi mettre le doigt sur les gens qui font de l'argent avec les prisons, ça peut changer cette perspective-là, puis offrir une autre analyse? C'est quoi votre objectif en organisant de telles marches, puis en dénonçant de tels groupes?
Alors, super bonne question. C'est une question qui est posée extrêmement souvent. Je pense que quand on commence à regarder en termes de sécurité, il faut aussi regarder que la majorité des personnes qui sont en prison, ce n'est plus nécessairement une idée de sécurité, mais c'est une idée de quelqu'un qui est devenu la propriété de l'État, puis qui est devenu la propriété de la prison. Puis que la majorité du contrôle qui est exercé sur les prisonniers et les prisonnières, c'est aussi en fonction de faire de l'argent de ces personnes-là. Donc, différentes personnes du Service correctionnel canadien parlent des prisonniers en tant que propriété de la prison tant et aussi longtemps qu'ils sont soit en libération conditionnelle dans la communauté ou même en prison. Donc, ce qui fait que les personnes qui sont des prisonniers à vie ou des prisonnières à vie ou à perpétuité restent la propriété de l'État pour le reste de leur vie. Aussi, quand on commence à regarder les îles de sécurité, c'est regarder qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se font tuer ou blesser ou torturer par la police et par les gardes prisonniers. Puis que ça, c'est quelque chose qui est juste jamais parlé non plus. Donc, cette idée de sécurité-là, ce que ça fait, c'est que ça fait juste contrôler les personnes jusqu'à un point qu'ils deviennent, ils doivent devenir les citoyens parfaits que personne ne peut être.
Et donc, justement, cette dénonciation de ces compagnies-là, c'est juste un aspect du travail que fait en ce moment le comité de soutien avec les grévistes de la faim de Pelican Bay, qui, il faut le mentionner, est juste un parmi beaucoup d'autres comités de soutien là, à travers le monde. Mais ici, qu'est-ce qui se fait? Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette lutte-là, donc cette grève qui a lieu depuis le 1er juillet de cette année?
Alors oui, la grève a commencé le 1er juillet. Alors, pendant la première semaine de la grève de la faim, il y a eu plus de 6000 prisonniers qui étaient prisonniers et prisonnières en grève quelconque. Donc, il y avait des personnes qui étaient en grève de la faim ou en grève du travail ou autre grève qu'ils ont décidé d'entreprendre. Et à partir de la deuxième semaine, le dernier chiffre que l'on pense qui fait du sens, c'était un peu plus de 2000 personnes. Donc, cette baisse énorme doit aussi être remarquée en tant que la majorité des personnes ne sont pas non plus en grève de la faim illimitée. Donc, ils sont en solidarité avec les personnes qui sont en grève de la faim illimitée. Donc, c'est important aussi de tout temps penser à ça lorsque on peut dire que, oh mon Dieu, le nombre de personnes a été divisé par 3. Non, c'est pas ça. C'est que ces personnes-là avaient décidé de le faire pour un certain moment déjà. Il y a aussi... ce qui est important aussi de remarquer, c'est que la grève a été appelée par des personnes dans les unités de logement sécuritaire de la prison qui s'appelle Pelican Bay en Californie. Mais maintenant, au-dessus de 9 prisons, et le dernier chiffre que j'ai entendu, qu'il y avait des personnes qui étaient en grève de la faim ou en grève du travail ou grève quelconque. Aussi, récemment, dans la dernière semaine, nous avons entendu beaucoup de cas graves de déhydratation et d'insuffisance rénale. Et beaucoup de médecins, spécifiquement le médecin de Pelican Bay, qui a décidé de ne pas traiter les prisonniers qui étaient en grève de la faim. Ça a donné lieu à beaucoup de personnes impliquées dans le milieu de la santé à se venir ensemble et à se faire des lettres de soutien et... quelques-unes de ces personnes-là venaient de Montréal et à ma connaissance, la situation s'est un peu améliorée. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel. Je ne sais pas si le médecin de Pelican Bay prend maintenant les grévistes de la faim. Mais ce que j'ai entendu, c'est que la situation s'est améliorée pour les personnes. Il y a autre action qui se sont faites. Il y a aussi eu une lettre de soutien des prisonniers en grève de la faim signée par 17 organisations de Montréal. Il y a aussi eu le 4 juillet, je pense, 4 ou le 3 juillet, une manif de bruit qui s'est passée dans plusieurs pénitenciers fédéraux à Laval et des prisons provinciales dans le nord de Montréal. Aussi, à chaque semaine, il y a une ligne de piquetage qui se passe en face du consulat des États-Unis. Donc, c'est à chaque semaine, le vendredi à midi, on se rencontre, beaucoup de personnes se rencontrent pour faire une ligne de piquetage en face des États-Unis pour supporter les grévistes de la faim. Puis cette ligne de piquetage-là va être là à chaque vendredi de midi à 1h30, tant et aussi longtemps que la grève de la faim a lieu. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres informations qui peuvent être obtenues. Le groupe de comité de soutien à la grève de la faim a un blog, si vous voulez aller regarder, c'est au contrelesprisons.blogspot.com. Alors, il y a aussi plus d'informations sur les activités qui se passent à Montréal et aussi un lien vers les autres différents comités de soutien à travers les États-Unis et le Canada. Peut-être ajouter aussi que aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations dans plusieurs villes des États-Unis en soutien avec les prisonniers en grève de la faim. Je n'ai pas plus d'informations que ça parce que c'est en ce moment. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait une occupation au à Sacramento, dans le quartier général du CDRC, qui est le département qui est en charge des prisons en Californie. Donc, juste se rappeler qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de lutter, puis qui sont en train de, possiblement en train de mourir pour des demandes qui sont enfin assez minimes. Je peux peut-être nommer les demandes des prisonniers en ce moment. Alors, premièrement, la situation dans laquelle la majorité des personnes qui vivent dans les unités de logement sécuritaire à Pelican Bay, c'est les conditions où est-ce qu'ils sont dans leur prison, dans leur cellule en fait, plus de 22 heures par jour. Quand ils sortent, ils peuvent sortir pour environ une heure par jour pour aller dans une salle d'entraînement qui est en fait une salle à peine un peu plus grande que leur cellule, où est-ce que, qui est encore où est-ce que tu ne peux pas voir le soleil. Donc, ils ne voient jamais la lumière du jour. Ça, c'est à ma connaissance. Il y a aussi une politique qui fait que dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un événement qui se passe qui est contre les règles de la prison, toutes les personnes, soit dans un corridor ou d'un groupe racial ou d'un groupe religieux, se font punir. Donc, c'est des punitions collectives tout le temps, qui fait que les administrateurs de la prison n'ont jamais vraiment besoin de regarder puis d'essayer de trouver qui est-ce qui a causé n'importe quoi. Donc, ça crée des situations où est-ce que tout le monde se fait punir. Aussi, une des façons, la façon la plus commune de rentrer dans ces unités de logement sécuritaire-là, c'est lorsque tu te fais accuser d'être un membre d'une gang de prison. Et la seule façon de sortir des unités de logement sécuritaire, c'est si tu donnes le nom ou de l'information à propos d'une autre personne pour qu'il rentre dans... Pour que toi, tu puisses sortir, il faut que tu donnes l'information à propos de quelqu'un d'autre. Donc, ça crée une situation où est-ce qu'il y a des fausses accusations tout le temps, parce que si la seule façon de sortir, c'est de blâmer sur quelqu'un d'autre, puis que ça fait... Parce qu'il y a beaucoup de prisonniers que ça fait des décennies qu'ils sont dans ces conditions-là. Donc, il faut se rappeler ça. C'est des situations de torture d'un individu. Alors, prenant en compte les conditions de vie dans lesquelles ces personnes-là vivent, ils ont 5 demandes. Premièrement, de ne pas avoir des punitions collectives. Donc, si quelque chose se passe, c'est pas que tout le monde reçoive une punition. Après ça... C'est aussi avoir de la meilleure bouffe, avoir plus de programmes. Donc, il y a beaucoup de ces unités de logement sécuritaire-là aux États-Unis et la majorité d'entre eux ont plus de programmes que Pelican Bay. Donc, une des demandes, c'est qu'il y ait des programmes religieux, des programmes d'amélioration personnelle disponibles à Pelican Bay. Il y a aussi une demande de... Suivre les recommandations d'un rapport fait par le gouvernement des États-Unis par rapport à la violence dans les prisons, spécifiquement reliée à la fin de l'emprisonnement d'isolement cellulaire à long terme. Donc, techniquement, le gouvernement des États-Unis a publié un rapport disant qu'il ne devrait pas avoir de prisonniers à long terme, de prisonniers d'isolement cellulaire à long terme, et les personnes à Pelican Bay demandent que ça soit respecté. Et la cinquième demande... j'ai un blanc de mémoire en ce moment. Mais il y a une cinquième demande.
Cinquième demande que vous pourrez voir en français, notamment sur le site contreleprisons.blogspot.com, sur lequel on peut retrouver notamment tous les événements à venir. Merci beaucoup.
Bien, merci à toi, Blandine.